VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean Roger Bion, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le Rwanda a décidé de fermer la frontière avec son voisin, l'Ouganda. Chauffeurs routiers et commerçants ont déserté donc les lieux pendant que les soldats des deux pays s'y sont déployés en raison de tensions entre les deux pays. Ce blocus résulte de la dégradation des relations entre les chefs d'État rwandais, Paul Kagame, ougandais, Yoweri Museveni, d'anciens alliés dans les années 80 et 90. Quand ils s'étaient mutuellement aidés à accéder au pouvoir. La méfiance réciproque entre les deux présidents a éclaté au grand jour ces derniers mois. Chacun a proféré à l'encontre du rival les mêmes accusations d'espionnage, d'assassinat politique et d'ingérence dans les affaires intérieures de son pays. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi normalise ses relations avec la Belgique. Il a fait autant avec l'un des voisins du Congo, le Rwanda. Le point avec Eddie Sango.
Une haute délégation de la Belgique avec à sa tête le premier ministre Didier Reynders a rencontré les chefs de l'État congolais mardi à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Les deux pays normalisent leurs relations en foi durant les dernières années du régime de Joseph Kabila. Les chefs du gouvernement belge préfèrent les termes de redynamisation et du réchauffement des relations selon sa déclaration. Il était accompagné entre autres de Renier Nishkins, envoyé spécial belge pour la région des Grands Lacs, et du général-major Philippe Bouquet, adjoint du chef de l'état-major de la Défense. Le régime de Kabila n'avait pas digéré les efforts de la Belgique qui faisait pression en vue d'empêcher les troisième mandats du président congolais qui ne s'est finalement pas présenté à la dernière présidentielle. Entre-temps, la coopération a été suspendue. La maison Schengen à Kinshasa, sorte des consulats européens gérés par la Belgique, a été fermée et les activités de l'agence belge de développement, Enabel, gelées. Par ailleurs, la fréquence des vols de Brussels Airlines entre les deux pays a été réduite. Aujourd'hui, tout revient à la normale. Le nouveau président a aussi normalisé les relations avec le Rwanda. Vendredi, il a reçu à Kinshasa les chefs d'état-major des forces de défense du Rwanda.
La police zambienne a interpellé aujourd'hui une ancienne ministre sur laquelle pèsent des soupçons de corruption qui ont motivé l'année dernière la décision du Royaume-Uni de suspendre son aide bilatérale à ce pays d'Afrique australe. À l'époque, ministre du développement communautaire et des services sociaux, Emerine Kabanchi, a été arrêtée pour abus d'autorité. Remise en liberté sous caution, Madame Kabanchi devrait être déféré devant un juge à une date qui n'a pas été précisée.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Plusieurs salariés de la télévision nationale algérienne ont récemment été sanctionnés pour s'être prononcés contre les pressions subies de la part des autorités, révèle Reporters sans frontières, RSF, qui a dénoncé des sanctions injustifiées. Irénée Amanombo.
Journaliste à Canal Algérie, la chaîne francophone de la télévision publique algérienne, Abdelmajid Benkassi a reçu un avertissement pour avoir pris part sans l'autorisation de sa hiérarchie à un débat sur une chaîne privée consacrée aux médias publics. La journaliste Melina Yassef a de son côté confirmé l'arrêt sur une autre chaîne de la télévision publique de son émission sur la voie du changement. Le 9 mai, M. Benkassi avait déjà dénoncé la mise à l'écart par la direction d'Abderazak Sia de son poste de présentateur d'un des journaux télévisés de la 3, une chaîne arabophone publique. Dans un tweet, Nadia Madassi, qui a démissionné début mars de son poste de présentatrice du JT Soir de Canal Algérie, a attiré l'attention sur ses sanctions, ainsi que celles contre le journaliste Ali Adadou et la technicienne Imen Slimane, mutées pour leur soutien au mouvement de contestation. RSF dénonce ces mesures abusives et appelle à leur levée immédiate. Il s'agit de sanctions disproportionnées et injustifiées contre des journalistes qui n'ont fait qu'appeler à une presse libre et indépendante, indique Swayeb Kayati, directeur du bureau Afrique Nord de l'ONG, dans un communiqué. L'organisation dénonce également la déprogrammation de l'émission Questions d'actu sur Canal Algérie, censurée parce que trop critique sur la situation politique du pays.
Amnesty International s'inquiète de la répression qui a suivi les élections législatives du 28 avril au Bénin. Une répression qui, écrit l'organisation dans un communiqué, a atteint des proportions inquiétantes avec 4 morts lors des manifestations post-électorales. Écoutez au micro de Bagassi Koura, Kine Fatim Diop, elle est chargée de programme Afrique de l'Ouest à Amnesty International.
Amnesty réussi à documenter au moins 4 morts par balle depuis le jour des élections législatives qui se sont tenues le 28 avril au Bénin, sans l'opposition. Parmi ces personnes décédées, on compte une mère de famille qui est décédée le 2 mai suite à des blessures par balle, ainsi qu'un jeune garçon âgé de 19 ans qui était un apprenti soudeur qui est décédé dans la ville de Kandi le 2 mai également. Ici, a pu documenter également le cas de plusieurs blessés. Et pour nous, ce qui est vraiment inquiétant, c'est que les familles qui ont perdu leurs proches font face à des obstacles administratifs pour récupérer les corps de leurs victimes.
À l'époque, l'opposition avait parlé de tirs à balles réelles. Est-ce que c'est aussi votre constat?
Oui. Alors, les cas que Amnesty International a pu documenter, c'est des personnes qui sont décédées suite à des tirs par balles réelles. Pour nous, c'est vraiment inquiétant. L'usage excessif de la force est vraiment contraire à l'exercice du droit de manifester, tel que reconnu par à la fois la constitution béninoise, mais également le droit international.
Est-ce que vous savez s'il y a des enquêtes en cours?
Alors, on n'a pas encore la réponse officielle des autorités. On sait que le ministre de l'Intérieur avait réagi au niveau d'une radio internationale pour dire qu'il y a eu usage d'armes à feu et que des enquêtes seront menées. Mais pour l'instant, on n'a pas eu d'acte concret de la part des autorités béninoises dans ce sens-là. Ce que l'on sait, c'est qu'à ce stade-là, des blessés sont inquiétés, des blessés sont harcelés, mais aussi des activistes politiques sont arrêtés. C'est le cas de Habib Ahandassi, un étudiant web activiste qui a été arrêté jeudi dernier et à qui on reproche d'avoir participé à une manifestation non armée, alors que lui-même déclare n'avoir pas participé à cette manifestation du 1er et 2 mai.
Alors, on imagine que ça vous surprend, hein, parce que le Bénin a toujours été présenté comme un exemple démocratique dans la sous-région.
Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup d'attentes par rapport au Bénin, qui a été montré longtemps comme un exemple en termes de démocratie. Mais ce que nous voyons récemment, c'est vraiment un recul en termes de liberté d'expression, en termes de liberté de réunion pacifique. Je pense qu'il est temps que les autorités béninoises mettent fin à, disons, tout ce processus de nier les droits des citoyens béninois et les laisser manifester de manière pacifique, librement.
Kine Fatim Diop d'Amnesty International, elle a été jointe à Dakar. Le conseil militaire au pouvoir au Soudan et des représentants des manifestants ont annoncé aujourd'hui, à l'issue de discussions marathon, un accord sur une période de transition politique de 3 ans devant préparer un transfert du pouvoir aux civils. Selon le général Atta, membre du conseil militaire, les 6 premiers mois de la période de transition de 3 ans seraient consacrés à conclure des accords de paix avec les mouvements rebelles dans l'ouest et le sud du pays. L'officier supérieur a également fait état d'un accord sur les prérogatives et la composition de la future Assemblée législative.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Hors du continent, le département d'État américain a ordonné aujourd'hui à son personnel diplomatique non essentiel de quitter l'ambassade de Bagdad et le consulat d'Erbil dans le nord de l'Irak dans un contexte de tensions croissantes avec l'Iran voisin. Washington a fait monter donc la pression sur Téhéran ces derniers jours, accusant la République islamique de préparer des attaques contre les intérêts américains au Moyen-Orient et renforçant la présence militaire américaine dans le Golfe. Le Kremlin s'est inquiété, lui, aujourd'hui, de la poursuite de l'escalade des tensions autour de l'Iran, malgré les déclarations du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, assurant en Russie ne pas vouloir de guerre avec Téhéran. Le procès d'un employé turc du consulat américain à Istanbul, jugé pour espionnage, l'un des nombreux dossiers au cœur des tensions entre Ankara et Washington, a repris aujourd'hui. Ce procès, suivi de près par Washington, avait commencé le 26 mars et le tribunal avait décidé à l'issue de la première audience de maintenir l'employé turc du consulat du nom de Metin Topuz en détention préventive. Monsieur Topuz, chargé au consulat américain de faire la liaison entre les autorités américaines et la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants de la police turque, a été arrêté en octobre 2017 et maintenu depuis en détention provisoire, accusé par les autorités turques d'espionnage et de tentative de renversement du gouvernement. Il risque donc la prison à vie. Le Royaume-Uni se prépare pour un nouveau moment de vérité au Parlement. Les députés britanniques voteront début juin sur un projet de loi sur l'accord de Brexit présenté par Theresa May qui pourrait siffler la fin de la partie pour son gouvernement. Dans l'éventualité où les députés approuvent ce projet de loi au mois de juin, le texte devra ensuite faire la navette entre les deux chambres du Parlement britannique, puis être validé par la reine Elisabeth. Si la procédure est achevée avant le 31 juillet, le pays pourra quitter l'Union européenne à cette date. Jean-Roger Billon à ce micro. Aux prochaines infos, Dans 50 minutes, vous retrouverez à cette antenne Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi partout où vous êtes sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.